À voix nue, Laurent Goumard s'entretient avec Emmanuel Huyne. Aujourd'hui, fou rire. Emmanuel Huyne, hier, vous avez choisi de lire « À quoi bon encore les poètes ?». C'était un ouvrage de Christian Prigent. Et vous avez lu notamment un extrait qui expliquait votre rapport à la danse. C'est-à-dire qu'il suffisait de paraphraser ce que disait Christian Prigent par rapport à la langue, par rapport aux mots, à la poésie, à la littérature. Et on pouvait comprendre votre rapport à la danse. Alors moi, j'ai choisi à mon tour de vous soumettre un texte à lire, il n'y a pas de raison. C'est un extrait de la biographie qui vient de paraître de Valeska Gerdt, qui est une danseuse allemande, initiatrice, on peut dire, de la danse grotesque dans les années 30. Et il me semble que c'est un texte qui pourrait aujourd'hui correspondre aux états de danse qui sont présents dans vos chorégraphies. Vous lisez, Emmanuel Huyne ?
Oui. Chaque rôle me rendait un peu plus calme et sereine. C'est en jouant un personnage de nourrice que j'appris pour la première fois de ma vie à rire. D'abord, je ne me risquais pas à le faire, mais Madame Moissy m'empressa jusqu'à ce que je prenne mon courage à deux mains, que je franchisse l'anneau qui s'était formé autour de moi et que j'éclate bruyamment de rire. J'ai alors ri profondément et de toute mon âme. Ce rire, comme il m'a délié, comme il m'a ému. Jusqu'alors, j'avais été grave, presque rigide. À présent, je savais une chose, j'ai en moi une force réelle et il n'y a pas d'escroquerie à ce que je devienne comédienne. Il faut que le fondement soit vigoureux pour que l'édifice tienne solidement. Je perdis ma raideur et devins jeune. Oui, ça résonne, cet extrait résonne justement pour moi ou en moi. En fait, depuis 2-3 pièces maintenant, je dirais depuis l'apparition des mots dans les pièces, depuis Distribution en cours, donc le discours d'astrophysique de Thierry Fogliso, l'astrophysicien, et puis ensuite l'arrivée des textes de Christophe Tarkos d'Ambor, et puis cet hiver l'arrivée des textes de Herberto Helder dans la pièce A Vida Enorme. Je dirais que peut-être les mots m'ont délivré ou m'ont permis de rire dans ma danse ou d'accepter une dimension burlesque, d'accepter une dimension aussi d'enfance qui existe très fortement chez moi comme personne et que les gens connaissent quand ils me fréquentent. Mais jusqu'à maintenant dans ma danse, je m'en étais tenue, je dirais, c'est pas par application, mais j'ai pas pu faire autrement, à une forme de sérieux réel qui m'a souvent embarrassée. Mais voilà, j'étais devant mes pièces comme ça, je pouvais pas rajouter des choses drôles pour être drôle. Et moi, je dirais que c'est sans doute... Distribution a commencé quelque chose, Distribution en cours, dans la friction entre astrophysique et manipulation d'objets et danse. Mais Tarkos, par sa poésie, par anachronisme, m'a permis des registres, voilà, le registre du burlesque. Et maintenant, je m'aperçois que je me suis moi-même empêchée et qu'avancer dans sa vie artistique, c'est vraiment essayer de défricher et de désenclaver pour sortir le jeu, le soi propre. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est beaucoup moins rigide que ce qui est apparu dans les premières pièces.
En effet, donc, il suffisait d'ouvrir la bouche pour pouvoir parler, pour pouvoir rire, comme le rire qui est dans la bande-son de A Vida Enorme, en fait.
C'est très juste, il suffisait de parler.
Décrisper la bouche.
Oui. Absolument. Et souvent, en Alexander ou en technique Feldenkrais, il y a beaucoup justement de propositions pour que la maxillaire se détende et que le mouvement soit, on va dire, plus organique, plus juste, moins crispé. Et là, il a suffi de s'autoriser à proférer des textes, ce contre quoi j'étais presque, on va dire, idéologiquement au début contre.
Vous disiez qu'avant, idéologiquement, ce n'était pas possible donc, de prendre la parole sur un plateau. Cela fait référence à une certaine qualité de danse ou à une certaine histoire de la danse, par exemple américaine.
Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire pour avoir été, pour le coup, élevée à Mudra en danse et m'opposant beaucoup, je dirais, à l'esthétique de Béjart, d'une danse théâtre, et même à cette époque-là pour moi, à la danse allemande, à une danse théâtrale, je m'étais vraiment tournée du côté américain, avec une grande admiration pour Cunningham et Tricia Brown. Et de fait, en commençant mes premiers travaux, je me suis mise à cet endroit-là, l'endroit, je dirais, des premiers travaux de la Justin Church, en me disant, bon, voilà, les choses sont à résoudre radicalement, mais avec mes armes propres de danseuse, avec le corps. Et dans le corps, pour moi, il n'y avait pas la voix. C'est venu plus tardivement. Mais maintenant, je suis heureuse que le texte soit rentré plus librement dans le travail, parce qu'encore une fois, en tout cas, Tarkos m'a permis le burlesque finalement que j'aime. Oui. Et Numéro, actuellement...
Numéro, oui, c'est la pièce qui donc est donnée au Festival Montpellier Danse 04 et qui va être donnée aussi au Festival d'Istanbul, on en parlera tout à l'heure. Et Numéro, oui.
Oui, et Numéro a une dimension, je dirais, d'enfance, c'est-à-dire que je me suis appuyée sur l'idée que j'ai de la prestidigitation, de la magie, du cabaret, mais plutôt de la prestidigitation pour penser cette pièce avec Nicolas Flock, plasticien. Donc ce sont des souvenirs, en gros, d'un temps au Japon, puisque j'étais à la Villa Kujuyama en 2001. C'est une série de souvenirs japonais qui sont, on va dire, traités comme un tour de prestidigitation. Et en gros, Nicolas et moi essayons de confronter nos visions, non pas du tout du Japon, parce que ce n'est pas un carnet de voyage, mais nos visions de l'espace à travers des objets, soit ramenés du Japon, soit ramenés, enfin amenés là sur le plateau dans une, encore une fois, une interprétation d'une esthétique japonaise minimaliste. Mais voilà, l'idée de le tour de magie, ben, je crois que je ne me serais peut-être pas permis ça avant. J'avais envie de quelque chose aussi dans une forme drôle ou plus légère ou plus proche de l'enfance pour moi.
Les souvenirs de magie ou de prestidigitation? Quel genre de souvenir, Emmanuel Huyn?
Non, mais les archétypes de la prestidigitation...
Qui sont pour vous?
Ben voilà, la boîte qu'on transperce de sabre, la femme coupée en morceaux, un jeu de Mikado géant, voilà, où on se cache dans le noir, qu'est-ce qui surgit dans le noir, qu'est-ce qu'on peut percevoir de qui fait peur. Quelque chose, oui, très, très, très banal sur ce qu'on peut imaginer être le tour de magie. J'ai pour ça pas vu de nouveau tour de magie. Je me suis appuyée sur, je sais pas, la boîte de magicienne que j'avais quand j'étais enfant. Le pouce qu'on fait disparaître sous un pouce en plastique et en dessous, en fait, il y a le tissu qu'on veut faire sortir. Bon, y a pas... Là, on est devant des choses simplissimes de ce point de vue-là, mais en tout cas, je dirais que la chose est construite dans sa rapidité, dans son rythme. Et peut-être dans sa naïveté aussi.
Mais c'est quelque chose qui parcourt tout votre travail, en fait. Dès votre première apparition, qui est sur le mode de la disparition, c'est Mua, puisque vous apparaissez dans la quasi-obscurité. Et il n'y en aura pas plus, il n'y aura pas plus de lumière pour autant par la suite. Ensuite, distribution en cours, vous disparaissez derrière la structure, l'installation imaginée par Christian Rizzo. Et là encore, avec Numéro, de façon encore plus radicale, il y a encore une disparition du corps, mais là, quelque chose de beaucoup plus joué.
Oui,
au départ, c'est le mode d'apparition, et aujourd'hui, c'est quelque chose que vous retournez de façon...
Voilà, ben vous connaissez parfaitement le travail, parce que je n'avais même pas pensé à cette dialectique d'apparition-disparition. Et c'est vrai que Numéro, du coup, le claironne ou le joue absolument. Et voilà, on est en train de chercher des musiques du côté, à nouveau, de peut-être du Japon, mais des musiques qui claironnera un petit peu comme au cirque, qui a un roulement de tambour avant une apparition ou une disparition, ou avant quelque chose de difficile à faire. Mais je vous suis quant à l'interprétation de l'apparition-disparition dans ces dernières pièces.
Pourquoi êtes-vous allé au Japon ?
J'avais très envie depuis longtemps, en fait, c'est très banal, hein, non pas d'avoir envie d'aller au Japon, mais les raisons pour aller au Japon, c'est qu'on perçoit de loin un pays très, très ancré dans sa tradition, très, c'est pas lourdement, mais fortement inscrit dans sa tradition, enfin, qui les défend envers et contre tout, même à, je dirais presque à empêcher les gens d'évoluer. Et en même temps, je dirais qu'au prorata de cette tradition, il y a une digression et une modernité et aussi une folie et une transgression très forte au Japon. Donc c'est peut-être quelque chose qui me correspond aussi vraiment, c'est-à-dire un code ou une chose assez tendue sur, sur une forme traditionnelle. En tout cas, ça m'impressionne. Et en même temps, cette façon de transgresser m'impressionne aussi beaucoup. Donc... beaucoup de gens vont au Japon pour ces raisons-là, et on le vérifie en vivant là-bas. C'est-à-dire qu'on peut se trouver à Kyoto, là où se trouve la Villa Kujuyama, il y a 1000 temples ou 1300 temples, donc on tombe tous les jours devant un temple, devant cette tradition, cette histoire, avec le code de se déchausser. En même temps, on est totalement libre, n'importe qui peut rentrer. Et à la fois, on se promène dans la ville, et il y a les pires énergumènes rockers, poètes qui sont en train de vous haranguer dans Kyoto, et c'est normal. Et le japonais passe à côté des deux comme si c'était normal. Donc j'avais très envie de fréquenter, de vivre ça, de vivre comment aussi les artistes articulent leur rapport à ça. Donc au Japon, j'ai rencontré aussi des chorégraphes et en même temps des performeurs qui sont eux-mêmes objets de cette tension. Notamment, j'avais envie de travailler et je n'ai pas travaillé, j'ai juste pu approcher un maître d'ikebana, qui est cet art floral japonais qui est on ne peut plus classique, l'art de composer le bouquet. Et j'avais entendu parler de monsieur Nakagawa, donc je ne me souviens plus son prénom, qui est un maître d'ikebana, mais qui a dérivé dans l'ikebana et qui en fait fait un ikebana catastrophique, un ikebana comme si le bouquet avait été soufflé par une tornade, où il fait on va dire, il fait pourrir des roses, et c'est le jus rose de ce paquet de roses sains et coupées et accrochées comme un beefsteak qui est son œuvre d'ikebana. Donc ce bouquet est un bouquet pourri, et c'est ça son œuvre. Donc j'étais absolument pleine d'admiration, en fait, pour cette espèce de grande digression. Il fait aussi des bouquets recouverts de sacs poubelles. Donc il y a des fleurs en dessous, mais il n'y a que le sac poubelle qu'on voit. Ou un bouquet renversé, donc il fait le geste de le renverser, et peut-être il le recompose encore. Moi, j'appelle ça ikebana catastrophique, c'est pas lui qui l'appelle comme ça. Mais il ne montre que des situations extrêmes de bouquets plus du tout harmonieux. Cet homme donc est un nain de, je sais plus, 70 ans aujourd'hui. La Fondation Cartier a exposé des photos. Hervé Chandès le défend beaucoup ici en France. Et j'avais très envie de travailler avec lui, je dirais, pour sentir comment il a fait pour digresser, pour m'imprégner aussi de sa digression ou de sa folie. Mais malgré tout, je crois que cet homme a été rattrapé par une forme de code, puisque quand on s'est rencontrés, j'ai voulu improviser devant lui en disant « Je souhaite que vous répondiez par un geste végétal catastrophique. » Enfin, je me suis exprimée via un interprète sur ma demande. Et en fait, lui, j'ai dansé devant lui, puis il m'a dit « Mais vous savez, votre danse, je vois des pétales qui tombent dessus, je pourrais composer un décor. » En fait, il s'est replacé en décorateur. Et il ne s'est pas placé comme quelqu'un avec qui je pouvais collaborer. J'imaginais vraiment une performance à deux, où on pourrait, j'irais, faire des gestes de positionnement de végétaux catastrophiques et de mouvement aussi, de positionnement de nos corps dans l'espace. Voilà, donc on n'a pas pu mener à bien ça. Je pense qu'il est peut-être entièrement, pas entièrement, mais il est quand même du côté d'une tradition où il me voyait danseuse et lui exclusivement faisant des objets végétaux. Et moi, j'espérais autre chose. Mais donc le Japon est pour moi vraiment l'endroit de la digression, de la transgression de la norme ou du code. Et j'ai énormément aimé être dans ce pays.
Alors il y a d'autres voyages que vous menez depuis quelques années, jusqu'à créer même un festival, notamment en Turquie. Donc c'est Istanbul où vous vous rendez régulièrement, vous avez rencontré des chorégraphes, vous avez fait venir aussi des chorégraphes, vous allez faire venir cette année au Centre National de la Danse aussi une programmation avec des chorégraphes turcs, notamment à Istanbul. Qu'alliez-vous chercher en Turquie et notamment à Istanbul, Emmanuel Huyn ?
En fait, je dois un tout petit peu donner l'historique de cette rencontre avec ce pays. En enseignant à Exerce, donc la formation de Mathilde Monnier, en commençant d'enseigner il y a 3-4 ans, j'avais rencontré Phyllis Cizanli, qui a travaillé dans une de mes pièces, Bor, et qui continue d'ailleurs de travailler en France avec Mathilde Monnier actuellement. Et en croisant Phyllis, enfin en rencontrant Phyllis, et en m'apercevant que c'était une jeune femme qui avait fait des études d'architecture, qui s'était lancée tardivement dans la danse, j'avais trouvé ce parcours assez étonnant et je lui ai dit, moi j'aimerais connaître la communauté des danseurs turcs, parce que voilà, tu me parais toi étonnante, comment sont les autres? Bon voilà, elle me disait qu'elle travaillait avec Mustafa Kaplan, qui était aussi quelqu'un qui avait commencé la danse tardivement et qui commençait de chorégraphier, et qu'il y avait effectivement des artistes qui commençaient de travailler. Et je sentais qu'il y avait quelque chose que je percevais comme émergent, et je me suis dit peut-être que la Turquie, c'était il y a 3 ans maintenant, peut-être que la Turquie, c'est le Lisbonne d'il y a 12-13 ans. Et puis je me suis pris au jeu, je me suis dit, j'ai envie de revenir l'année prochaine, faire un autre workshop. Et j'ai mis en place avec Isabelle Hellul, puis ensuite Aymar Cronier, ce festival, où en fait cette année, Je me suis dit, les danseurs turcs ne sont pas vus dans leur pays. Il faut créer un événement pour que les Turcs prennent conscience de ce qu'est la danse contemporaine, qui est un art émergent en Turquie. Je me suis dit, la meilleure façon que les Turcs regardent les Turcs, c'est qu'il y ait aussi un événement avec d'autres personnes. Donc, je me suis dit, des Français. Dans les Français, vous allez le voir dans la programmation, ce sont des gens très proches de moi à qui j'ai pu demander, est-ce que vous voulez bien venir pour pas d'argent? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à tenter une aventure artistico-humaine de coopération sur vos forces propres? Donc c'est vrai que ce sont exclusivement, je dirais, des gens très proches, des amis.
Christian Rizzo, Rachido Ramdan,
Julie Nioche, Nuno Bizarro, Nicolas Floch. On ne peut demander ça qu'à des gens très proches. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez venir travailler sans argent, mais être...
Pour rien.
Voilà, pour rien. Alors, c'est vrai qu'avec la nomination à Angers, on a pu refaire des propositions de salaire, en tout cas décentes, mais qui ne sont pas non plus des choses incroyables. En tout cas, l'idée, c'était de venir en Turquie pour qu'il y ait un événement franco-turc et que les Turcs regardent leur danse. Il y aura un retour pour que les Français découvrent la danse turque. Donc ça, c'est en avril 2005, en partenariat avec le CND, donc Claire Verlet. Et les Turcs viendront aussi jouer à Angers. Et en Turquie, là, très immédiatement, en dehors des pièces qui sont proposées chaque soir, une pièce française et une pièce turque, il y a des débats, c'est-à-dire des rencontres où on va se poser mutuellement les questions pourquoi vous faites ça et comment vous le faites. C'est-à-dire un petit peu l'état d'un paysage artistique, l'état d'une politique culturelle aussi, c'est-à-dire d'où est-ce qu'on parle, comment on fait ce qu'on fait, les contextes aussi de comment on les fait. Et Marc Renier va aussi, et Marc Renier, donc directeur adjoint du CNDC d'Angers, va aussi organiser un temps pour expliquer comment les compagnies aussi sont gérées en France. Je dirais que pour moi, c'est vraiment un projet de coopération où j'essaye d'entraîner aussi les Turcs à se fédérer, à se fédérer pour essayer d'être plus forts ensemble. Pour l'instant, les choses étaient très atomisées.
En fait, si on parle de ce festival à Istanbul qui a lieu justement actuellement, c'est bien parce que vous venez d'ailleurs de donner le verbe, hein, fédérer, et vous êtes vraiment ça, c'est-à-dire fédératrice. Vous êtes membre actif donc des signataires du 20 août, et aujourd'hui, vous avez donc postulé pour être directrice du Centre chorégraphique national d'Angers et directrice de l'école d'Angers, oui, qui est une des principales écoles de formation pour la danse en France.
Oui, c'est... Pourquoi... même la seule école supérieure de danse contemporaine.
Pourquoi avoir choisi donc maintenant, dans votre parcours de chorégraphe, d'atteindre un poste administratif aussi important en fait?
Donc c'est tout d'abord un poste artistique, mais qui se double forcément de responsabilités administratives ou économiques très fortes. Donc ça, c'est vraiment le jeu, je dirais, de l'institution. C'est l'endroit où il y a une visibilité, une légitimité plus forte, en même temps que... On repose sur de l'argent public, donc on est redevable, je dirais, de comptes. Et donc, au prorata de la liberté, de cette légitimité, d'un plus grand confort financier qu'on acquiert en arrivant dans ces lieux, au prorata, le nombre d'exigences et de pressions est encore plus fort.
D'autant que, pour quand même enfoncer le clou, vous êtes la première chorégraphe de cette nouvelle génération de chorégraphes apparus dans les années 90, pour aller vite, pour faire journaliste, qui occupe aujourd'hui ce poste-là, qui est un poste clé, en fait,
oui,
dans la formation.
Il y a 15 jours, et la Fatoumi et Eric Lamouri viennent d'être nommés.
Voilà, donc, ça continue. Mais c'est vrai que vous êtes encore le symbole. Enfin, disons, s'il y a un acte comme ça, c'est vous qui l'avez... Ben,
d'autant que c'est vrai qu'à Angers, il y a l'école, donc il y a quelque chose de symbolique, de très fort. Pourquoi j'ai voulu ça? Je me sentais prête, en fait, je pense portée par ces années, justement, d'un certain militantisme au travers du monde de la danse et aussi, je dirais, des institutions. J'ai été portée, je pense, par la réflexion et le travail des signataires. Ça, c'est clair. On a eu de longues périodes de travail, quelques années de travail sur la formation. C'est devenu un enjeu aussi de notre génération parce qu'on avait l'impression que la façon dont on avait été formé était décalée par rapport à ce qu'on venait faire sur scène et qu'en gros, les artistes formés ne correspondaient plus ou n'étaient plus en prise avec les enjeux de nos pièces ou des pièces d'une majorité des travaux artistiques. Donc il y avait un décalage entre formation et création.
De quel ordre ce décalage, par exemple, Emmanuel Huyne?
Je dirais que la vision élargie qu'on peut avoir, enfin que moi je peux avoir de la danse dans mes pièces, c'est-à-dire de faire rentrer, et je suis à nouveau pas la seule, de faire rentrer
de l'astrophysique, de faire entrer de la philosophie, de faire entrer de la poésie, de faire entrer aussi activement les artistes visuels à des endroits où ils ne sont pas juste des décorateurs, de considérer aussi la collaboration avec la lumière et les interprètes comme une part active du travail. En gros, ne pas penser une danse qui va être éclairée, mise en musique, mais de plutôt faire converger toutes les énergies dans une question commune. Enfin, je définis cette façon de travailler pour moi, mais il y a d'autres personnes qui pensent la danse comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire d'une façon élargie. Il me semble encore que la formation était décalée, la formation telle que moi je l'ai reçue était décalée par rapport à ce que nous on faisait, nous ce qu'on fait comme chorégraphe. En gros, c'est ça.
Justement, au vu de ce qui s'est passé pour d'autres centres chorégraphiques, à savoir peut-être la difficulté de maintenir sur un long terme une acuité artistique et avec un travail administratif énorme, est-ce que vous n'avez pas peur, Emmanuel Huyn, justement, de mettre un frein à votre parcours de chorégraphe en acceptant et en dirigeant comme ça le Centre chorégraphique national d'Angers et son école de formation ?
Alors, ce serait vraiment vous mentir de dire que je n'ai pas peur de ça. J'ai extrêmement peur de ça. C'est légitime puisque un centre chorégraphique est déjà lourd, mais là, un centre chorégraphique et une école, c'est énorme. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a ce collège, mais en même temps, voilà, la responsabilité globale me revient et c'est ce que je l'assume et c'est ce que j'ai voulu. Mais oui, en tant qu'artiste, j'ai peur de ça parce que. On sait bien qu'il faut beaucoup de temps pour rêver, pour rencontrer, pour imaginer, pour se tromper, pour changer d'avis dans une création, pour changer de piste. Et je me rends. Enfin, c'est clair que je n'ai pas ce temps-là matériel en ce moment. En ce moment, c'est normal, je suis lancée sur le programme de l'école qui doit commencer en janvier 2005. Et l'urgence, c'est ça, faire les programmes, contacter les intervenants, travailler avec le collège. Et c'est vrai que pour mes propres pistes personnelles, d'une pièce qui doit être créée dans un an. Donc je me dis dans un an, on peut se dire j'ai le temps, mais pour moi j'ai pas le temps. J'ai le sentiment d'être déjà en retard parce que je devrais plus lire, plus regarder, plus être dans le studio, plus rencontrer. Donc là, c'est sûr que je dirais j'ai peur pour moi comme artiste. Je suis bien entourée. Et Marc Renier, je pense, est vraiment un excellent directeur adjoint. Donc il comprend très bien le projet, donc je me sens très secondée. Et secondée aussi par le collège pédagogique. Et en même temps, je me sens aussi désarmée parfois par le fait que je devrais être plus en moi-même. Plus en moi-même.
La pièce qui devrait être créée en juin 2005.
En mai 2005.
En mai 2005 à Angers. Et ensuite qui devrait passer au Théâtre de la Ville, qui est dans la programmation donc, du Théâtre de la Ville pour la prochaine saison.
Oui.
Son titre, c'est Heroes. Il y a combien de danseurs prévus sur le plateau ? Parce que ça, vous le savez déjà, en fait.
Oui, oui, oui.
Comment on sait déjà le nombre de danseurs que l'on veut pour sa création, alors qu'on n'a pas encore défini le mode d'opération ? Donc, vous êtes combien ?
On est 5, voire 6.
Donc, on revient à une pièce de groupe importante.
Oui, on revient à une pièce de groupe. Là, c'est vraiment une histoire d'intuition. Et en ce moment, j'ai vraiment besoin de m'accrocher à mes intuitions. J'ai envie d'écrire une mini fresque, une mini épopée. Et voilà, ça devait être plus que deux, le duo de cet hiver. Je dois rentrer dans quelque chose qui soit du pluriel et qui dépasse le 3. Mais pour moi, l'intuition était, je ne sais pas, j'oscillais entre 4 et 6. Il doit y avoir plusieurs voix au sens de voix V-O-I-X et voix V-O-I-E-S. Donc voilà, pour tresser quelque chose qui soit de l'ordre du collectif, du multiple et aussi du singulier, pour moi, on est sur du 5-6. Je pense que ce sera une pièce assez peuplée en termes de mots et assez peuplée en termes de cris aussi. Je ne sais pas si c'est la maternité récente, je ne sais pas si c'est Angers très récemment qui est aussi une espèce de chape qui m'écrase et que je veux aussi, repousser artistiquement, c'est-à-dire je vais avoir besoin de crier à un moment, de crier artistiquement. Je ne sais pas d'où cela vient, ou peut-être parce que les mots commencent à être très présents dans mon travail. J'ai aussi besoin de savoir où est-ce qu'on est par-delà les mots ou avant les mots. En tout cas, le cri va être présent.
C'était à voix nue. Emmanuel Huyn s'entretenait avec Laurent Goumard. Prise de son. Carole Sans Devoir, réalisation Viviane Noël.